Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web sur graphite.net. On se retrouve pour cette dernière après-midi d'émission consacrée au cours WE01, questionner le web de l'Université de Technologie de Compiègne, dont le contenu est librement accessible sur librecours.net. Pour cette première émission de l'après-midi, on est en direct en studio avec trois étudiants de WE01, Ziad, Angèle et Robin. Bienvenue à vous, bonjour.
Bonjour. Salut.
Alors l'idée de ces émissions, c'est que pendant tout le semestre, les étudiants ont travaillé sur un projet qui est en lien avec les grandes problématiques contemporaines autour du web et plus généralement du numérique. Et ils et elles viennent restituer leurs travaux à la radio à la fin du semestre. Donc traditionnellement, le projet il s'organise en trois temps. Il y a la lecture d'un article d'investigation ou scientifique et sa restitution, la vulgarisation d'un concept de cours et puis une réflexion critique, une articulation entre le concept et l'article. Vous les deux groupes, donc toi Ziad, tu es seul, et Angèle et Robin, vous avez bossé en binôme, mais vous avez tous travaillé sur des géants du numérique, mais qui sont des géants du numérique assez différents. D'un côté on a Microsoft, de l'autre côté on a Facebook, et vos deux interventions vont très bien se compléter. Et pour commencer du coup, Ziad, c'est à toi.
Alors bonjour à tous, je vais présenter un article de ProPublica publié le 13 juin 2024 par la journaliste Renée Dudley. Alors, ProPublica est un média américain d'enquête et l'article parle de Microsoft, de l'attaque SolarWinds et d'une faille de sécurité appelée Golden SAML. Donc le point qu'on va aborder, c'est que la cybersécurité n'est pas seulement un problème technique, elle dépend aussi des choix économiques des grosses entreprises du numérique. Donc dans l'article, Andrew Harris, ancien employé de Microsoft, explique qu'il avait repéré une faiblesse importante dans un service utilisé pour connecter les utilisateurs. Donc cette faille pouvait permettre à des pirates de se faire passer pour de vraies personnes et d'accéder à des données sensibles sans être repérés. Donc pour comprendre un peu Golden SAML, on peut imaginer un faux badge. Normalement, une entreprise vérifie qu'une personne a le droit d'entrer dans certains espaces numériques. Mais avec cette faille, un pirate peut créer un faux badge qui semble vrai. Le système pense alors qu'il s'agit d'une personne autorisée. Selon l'article, Microsoft n'aurait pas réagi assez clairement ni assez rapidement. Corriger le problème aurait pu rendre certains services moins pratiques, notamment la connexion unique, qui permet d'accéder à plusieurs outils avec une seule connexion. Or, cette fonctionnalité était aussi un avantage commercial important pour Microsoft, surtout face à ses concurrents dans le cloud. Ainsi, l'article montre donc qu'il y a une tension. Microsoft se présente comme une entreprise de confiance, capable de protéger ses clients, mais elle aurait aussi pu éviter de parler trop clairement de sa faille pour protéger son image, ses contrats et sa place sur le marché. Ce point est important parce que les clients concernés ne sont pas seulement des particuliers. Les services de Microsoft sont aussi utilisés par des entreprises, des administrations ou des institutions sensibles. Avec cette attaque SolarWinds, certaines agences américaines importantes ont été touchées. Cela montre qu'une décision prise par une entreprise privée peut avoir des conséquences politiques et stratégiques. On peut donc dire que l'article ne parle pas seulement d'un bug informatique, il pose une question plus large. Quelles sont les vraies priorités des grosses entreprises technologiques quand leurs services deviennent essentiels au fonctionnement des États et des institutions ?
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Alors là, on vient d'écouter un extrait de la pub d'Apple pour son premier Macintosh en 84, avec ses petites phrases en référence au livre de George Orwell, 1984, et donc cette société dystopique, et avec ce Macintosh qui est un peu en opposition à cette dystopie, comme on va le voir par la suite. Donc, il faut savoir qu'au départ, une partie de la culture informatique vient de la contre-culture américaine des années 60 et 70. Dans cet imaginaire, la technologie devait permettre de libérer les individus. L'ordinateur personnel et Internet étaient vus comme des outils d'autonomie, de créativité et de communication libre. L'objectif était de s'éloigner des grandes structures centralisées comme les administrations, les grandes entreprises ou les systèmes d'informatique contrôlés par quelques acteurs. Mais il faut aussi rappeler que l'informatique s'est construite de manière paradoxale. Elle a aussi été soutenue par des financements militaires, notamment pour développer des systèmes de communication capables de réaliser des attaques. C'est donc avec un mélange étonnant entre recherche militaire, innovation technique et culture alternative qu'a émergé la Silicon Valley, qui deviendra plus tard un lieu central pour les grandes entreprises de la tech. Que bon, comme je l'ai dit, un exemple connu est la pub d'Apple pour le Macintosh en 84. Apple y présente son ordinateur comme un outil capable de briser l'uniformité et de libérer l'individu face à un pouvoir centralisé. Cela montre bien comment certaines entreprises du numérique ont construit leur image autour de la liberté, de l'innovation et de la créativité. Cependant, avec le temps, ces entreprises comme Apple, Microsoft, Google, Amazon ou Facebook ont été regroupées sous l'acronyme GAFAM. Elles sont devenues dominantes dans les services web, les systèmes d'exploitation, les terminaux et même certaines infrastructures d'Internet. On voit alors une contradiction entre l'ADN Internet, pensé comme horizontal, décentralisé, et la situation actuelle où quelques grandes entreprises concentrent énormément le pouvoir. Ce double discours apparaît clairement quand ces entreprises collaborent avec des États ou des polices ou des armées. Par exemple, Amazon a collaboré avec des polices américaines à travers ses sonnettes connectées Ring. Ces objets sont présentés comme des outils de sécurité pour les particuliers, mais ils peuvent aussi participer à une forme de surveillance collective. On peut aussi citer le contrat Nimbus, Google et Amazon fournissent des services de cloud et d'IA à l'État israélien. Cela montre que les GAFAM ne sont pas seulement des entreprises qui vendent des services pratiques aux utilisateurs. Elles peuvent aussi devenir des partenaires stratégiques à des États. Le concept de contre-culture et de collaboration montre donc un glissement. Au départ, la technologie est présentée comme un moyen de libération. Aujourd'hui, par contre, elle peut aussi servir à centraliser le pouvoir, collecter des données et renforcer des dispositifs de surveillance. Donc, par exemple, le contrat de Microsoft avec l'État américain, avec l'extrait qui suit.
C'est un véritable jackpot pour Microsoft, un coup de massue pour Amazon. Le géant de l'informatique a décroché un contrat de 10 milliards de dollars avec le département américain de la défense. Baptisé Jedi, ce contrat qui s'étend sur 10 ans concerne le stockage de données des forces armées sur le cloud. Si Microsoft a eu la victoire modeste, ce contrat est une aubaine pour un groupe qui mise énormément sur le cloud, mais qui ne représente que 16% de parts de marché dans le stockage des données en ligne.
Alors, l'article qu'on a vu précédemment, ainsi que ce concept, peuvent être liés, mais avec une nuance importante. En effet, Microsoft n'est pas l'exemple le plus évident de l'héritage contre-culturel de la Silicon Valley. Contrairement à Apple ou à certains acteurs du web, Microsoft ne s'est jamais vraiment construite une image hippie, libertaire ou anti-bureaucratique. Au contraire, elle est connue historiquement pour avoir défendu un modèle propriétaire et fermé, notamment face à l'open source. Il serait donc un peu forcé de présenter Microsoft comme une entreprise directement issue de la contre-culture. En revanche, l'article permet de prolonger la réflexion sur le double discours des grandes entreprises du numérique. Dans le cas de Microsoft, la contradiction ne porte pas principalement sur l'image hippie ou libertaire, mais sur l'écart entre son discours public de sécurité, de confiance et de protection des clients et des pratiques guidées par des intérêts économiques et stratégiques. L'enquête montre que Microsoft aurait refusé de communiquer clairement sur la faille Golden SAML, alors que cette faille pouvait mettre en danger certains de ses clients. Ce choix peut être interprété comme une volonté de prolonger son image, ses contrats et sa position commerciale. L'entreprise se présente comme un acteur central de la cybersécurité, mais l'article suggère qu'elle a pu privilégier ses intérêts économiques au détriment d'une transparence complète. L'article, avec ce concept, se fait donc surtout autour de la partie collaboration et double discours. Comme les autres grandes entreprises du numérique, Microsoft occupe une position stratégique. Elle fournit des logiciels, du cloud et des services essentiels à des entreprises et administrations et États. Cette position crée une tension entre l'intérêt général, la sécurité des utilisateurs et la logique commerciale de l'entreprise. Ainsi, l'article ne montre pas exactement que Microsoft trahit un héritage contre-culturel, il montre plutôt que les grandes entreprises du numérique, même lorsqu'elles ne viennent pas directement de cette culture, peuvent produire le même type de contradiction. Un discours officiel fondé sur la confiance, la sécurité et le progrès, mais des décisions concrètes qui restent fortement déterminées par la rentabilité, les contrats et stratégies. Et en effet, on est bien loin des années 60 et de cet idéal et de ce rêve californien.
Merci beaucoup Ziad pour ton travail et ta restitution très intéressante et en plus qui vont faire écho à la présentation qui suit puisque vous allez nous parler d'un autre glissement que vous avez identifié cette fois-ci avec Facebook mais qui est encore plus intéressant à mettre en perspective avec ce rappel historique des origines en tout cas de l'appropriation de ces idéaux contre-culturels de la Silicon Valley. Angèle Robin, c'est à vous.
Donc, merci Quentin. Effectivement, donc bonjour à nouveau à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, effectivement, on va vous parler de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur notre quotidien. Et on va notamment prendre l'exemple de Facebook. Pour ça, on s'est appuyé du coup sur un écrit de Olivier Hirschfeld. Je m'excuse pour la prononciation.
Je pense qu'on peut Hirschfeld.
Hirschfeld. Du coup, donc son essai Le monde selon Zuckerberg. On s'appuie là-dessus pour justement notre travail et nos restitutions. Donc vous le savez sûrement tous, mais Facebook est du coup le réseau social de Mark Zuckerberg et qui s'est entre autres opposé à Trump lors des élections aux États-Unis en 2017. Malgré cela, son réseau social a eu un impact qu'on peut qualifier de non escompté, voire même de contre-productif contre l'idéologie politique de Zuckerberg lui-même.
Alors, tout le monde sait ce que c'est Facebook, mais d'après Hirschfeld, comment est-ce que lui, il analyse ce que représente Facebook aujourd'hui ?
Du coup, effectivement, c'est une bonne question. Et Facebook, est-ce qu'on pourrait qualifier de cité-plateforme ? Du coup, c'est un réseau social qui compte environ 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, ce qu'on pourrait presque qualifier de lieu, malgré le fait qu'il soit numérique. Et c'est un lieu dans lequel on peut donc communiquer, donc échanger, donc via des discussions, des messages privés, sur nos comptes personnels, on peut évidemment poster des informations sur lesquelles on peut échanger, jouer, donc avec les jeux Facebook, ce genre de choses, informer évidemment, donc avec les comptes d'information, de médias, et évidemment vendre et acheter des objets via le Facebook Marketplace. Donc avec ces quelques exemples-là, vous remarquerez qu'on peut alors faire sur Facebook plus ou moins les mêmes activités qu'on peut faire dans une ville, dans une cité, à la seule différence près que Facebook est numérique, et donc une plateforme. Néanmoins, c'est important, Facebook n'a pas pour objectif d'être une place politique, mais a pour objectif premier de rester un réseau social. En ce sens donc, Facebook s'adresse donc d'abord à des utilisateurs avant de s'adresser à des citoyens. Malgré ça, son utilisation peut être détournée à des fins politiques, et on a des exemples avec l'affaire Cambridge Analytica, donc il y a une instrumentalisation de la plateforme via la collecte de données des utilisateurs, ou plus simplement via l'influence qu'une personne peut avoir, donc en émettant un avis non neutre, qui peut du coup ouvrir au débat, voire au clash.
Alors, les clashs, c'est quand même quelque chose qui est légion commune, hein, quand on discute même avec des étudiants de l'UTC à la CAFETE, mais est-ce qu'il y a des choses particulières sur les réseaux sociaux ou sur Facebook qui feraient qu'il y aurait plus de clashs qu'à d'autres endroits ?
Oui, effectivement. De manière générale, du coup, les algorithmes, en fait, ils vont mettre en avant les posts qui génèrent de l'interaction et donc qui semblent avoir de l'intérêt pour ces utilisateurs. Or, ce qui génère de l'interaction, en général, ça va être les posts clivants, voire qui vont mener au clash. De ce fait, plus un message est clivant, plus il va générer de l'interaction et plus il va être mis en avant par la plateforme, tout simplement. Ça a évidemment un intérêt économique, parce que plus on a d'interaction, plus on a de visibilité et donc plus on peut monnayer cher les publicités qui sont présentes sur le réseau social. Et plus on a d'interaction entre les utilisateurs eux-mêmes, plus ils passent de temps sur Facebook et plus ils vont voir de pubs et ainsi de suite. Autre fait intéressant des algorithmes, c'est que plus on interagit avec des contenus du même type, plus on nous proposera ce genre de contenu. Cela crée donc des bulles de filtres qui peuvent avoir pour effet de conforter les utilisateurs dans leurs idées et de rendre celles des autres menaçantes. Finalement, avec ces deux petits exemples-là des algorithmes, cela montre bien la limite que peut avoir la conception des réseaux sociaux quant aux messages extrêmes.
Alors, ce que tu nous dis, Robin, c'est que dans la conception même des réseaux, il semble y avoir des tendances, des choses qui influencent la manière dont on va s'en servir. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait raccord avec ce que nous, dans notre formation d'ingénieur, ou parfois en discutant, on peut entendre sur les outils techniques, à savoir, en gros, c'est qu'un outil et ça dépend du bon ou du mauvais usage qu'on en fait. Un truc qu'on pourrait dire, c'est, au final, on voit bien qu'un couteau, ça peut à la fois servir à beurrer une tartine, à attaquer quelqu'un à l'arme blanche. Et donc, en ce sens, est-ce qu'on pourrait dire qu'un couteau est intrinsèquement bon ou mauvais ? Non, il serait neutre.
Effectivement, c'est un point très intéressant que tu soulèves, Quentin. Mais du coup, on va pouvoir le reprendre point par point et montrer en quoi la technique n'est pas neutre. Du coup, premièrement, on va partir de la définition de la technique, donc qui est un savoir-faire construit empiriquement dans l'action, dans l'accumulation d'expériences concrètes. Il s'agit de la mise en œuvre dans le réel et dans l'action des savoirs. Donc ça, c'est d'après les techniques de l'ingénieur. Or, cette définition, elle implique donc de donner à l'objet technique une certaine forme, un certain usage. Et du coup, ces formes et usages découlent des choix de conception qui ont été faits. Ces choix, évidemment, ils peuvent être volontaires ou non, mais ils sont en tout cas forcément politiques et moraux. De plus, ils sont faits par des humains qui ne sont donc pas neutres, et un concepteur non neutre ne peut donc par définition pas concevoir un objet ou une technique elle-même neutre. De plus, avec une forme et un usage déterminés, on fait alors face au concept d'affordance. Donc, les actions sont guidées selon ce que l'environnement offre en termes d'action. De même, un objet est conçu pour avoir un usage particulier. Par exemple, une gourde est conçue pour pouvoir transporter des liquides. On peut difficilement couper quelque chose avec une gourde. Les choix de conception ne sont donc pas neutres et impliquent un usage particulier pour chaque objet technique. On a un autre exemple, avec une pierre taillée, un hippopotame apparaît comme une source de nourriture et plus seulement comme un prédateur.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, je voulais ajouter également, pour évaluer la technique, on a besoin de la technique. L'évaluation est donc déjà conditionnée par ce qu'elle cherche à juger. Et toute évaluation, par définition, n'est jamais neutre. La technique évaluante n'est donc pas neutre, et la technique évaluée n'est pas neutre non plus de par son évaluation. De plus, on peut citer l'argument de co-constitutivité. L'humain est formé par ses techniques. L'humain développe la technique, mais il est aussi influencé par la technique. Ils coexistent et se développent ensemble. Ça s'appelle la coévolution. Notre vision de notre environnement est changée par la technique. On peut prendre l'exemple de l'échographie. Elle a changé la façon de voir l'embryon. Cette technique permet non plus de voir l'embryon comme le stade zéro d'un être vivant, mais comme un réel enfant déjà né.
Voilà, j'entends bien ce que vous me dites sur l'idée que la technique n'est pas neutre, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas prendre ça pour une bonne nouvelle et se dire qu'on pourrait concevoir des techniques qui seraient tout simplement bonnes par leur choix de conception ? Typiquement, je sais que le PDG d'OpenAI, lui, a vraiment l'intention de mettre en place tous les garde-fous nécessaires pour que les IA soient utilisées uniquement dans des buts considérés comme moraux ou bons, donc on peut peut-être s'en servir pour ça.
Effectivement, c'est une très bonne remarque et c'est au premier abord ce qu'on pourrait croire. Mais l'homme ne peut jamais penser à tout, même en voulant bien faire. Les hommes sont par nature imparfaits. Ils pourront donc toujours détourner l'usage premier de la technique qui du coup serait d'abord bonne pour en faire un mauvais usage. On peut par exemple citer Hannah Arendt dans son écrit « Conditions de l'homme moderne ». Les hommes ont inventé des outils et des instruments pour faciliter leur vie naturelle, mais ces mêmes outils finissent par transformer cette vie au point de la rendre méconnaissable. Et du coup, on a par exemple l'exemple de la seringue qui, à la base, a été inventée pour injecter des antidouleurs donc à des fins médicales, ce qui, effectivement, est une technique quand même plutôt bonne, à des fins en tout cas positives. Mais aujourd'hui, les seringues, elles sont utilisées soit par certaines personnes pour se droguer ou alors même pour droguer d'autres personnes à leur insu.
Et je rajouterais qu'à la limite, la définition de bonne ou de mauvaise, on peut toujours discuter un petit peu dessus, mais ce que vous soulignez, c'est le côté un peu autonome de la technique, au sens où, à mon avis, ce que, à la fin de votre raisonnement, il y a l'idée qu'on ne peut de toute façon pas prévoir, quelles que soient les valeurs morales, ce qu'adviendra une technique. Quoi. On passe l'extrait ?
Allez,
c'est parti.
Il est clair que nous n'avons pas fait le nécessaire pour empêcher nos outils d'être utilisés pour nuire. Je veux parler des fausses informations, des ingérences étrangères dans les élections, des discours de haine et de la protection des données. Nous n'avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilités. C'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé. J'ai créé Facebook, je le gère et j'en suis responsable.
Dans cet extrait qui se déroule en 2018, nous y voyons Mark Zuckerberg s'excusant devant le Sénat américain pour les erreurs commises sur la protection des données personnelles et la manipulation politique sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant voir comment faire le lien entre l'article sur Facebook et la notion que nous venons de vous expliquer. Donc Facebook repose sur un principe simple. L'application n'existe que par sa capacité à générer des interactions. Selon Olivier Hertzschild, chercheur en sciences de l'information, cette logique a poussé la plateforme à amplifier les contenus qui créent de l'opposition, non pas par choix idéologique, mais parce que ce type de contenu génère plus d'engagement. Zuckerberg lui-même a reconnu les effets de ce mécanisme. Dans un post de février 2017, il écrivait que les réseaux sociaux récompensent la simplicité et découragent la nuance, et que dans le pire des cas, Il simplifie à l'excès des sujets importants et nous pousse vers des points de vue extrêmes. Ce constat prend une dimension particulière dans le contexte de l'élection présidentielle américaine en 2016. Earthshade rappelle que Zuckerberg était alors proche de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton et que c'est pourtant Donald Trump qui a remporté l'élection, en partie en maîtrisant les codes du clash, du clivage, de la provocation et de la polarisation. Exactement les mécanismes que l'algorithme de Facebook tend à favoriser. Selon Earthshade, Zuckerberg ne s'est jamais réellement remis de cette forme de responsabilité. C'est là que se trouve la vraie non-neutralité de la technique. Des choix techniques peuvent produire des effets politiques que son concepteur n'a ni voulu ni anticipé et qui peuvent même aller à l'encontre de ses propres convictions. Cet article nous a donc permis d'aborder la notion de la non-neutralité de la technique en prenant l'exemple de Facebook avec Mark Zuckerberg lors de l'élection présidentielle américaine en 2016. On vous remercie pour votre écoute.
Eh bien, merci à vous, Angèle et Robin, pour votre travail et votre institution. Comme on est, une fois n'est pas coutume, un petit peu en avance, on va du coup pouvoir passer une musique pendant que les éventuelles questions des autres personnes de l'UV qui nous écoutent arriveront sur Mattermost. Et puis sinon, on conclura tranquillement l'émission. Ziad, c'est toi qui as choisi une musique, c'est je crois California Dreaming de The Mamas and the Papas, je sais plus dans quel sens c'est ça, ça oui. Ok, impeccable. Pardon, vas-y.
En rapport justement avec cet idéal et ce rêve californien, et du coup le jeu de mots est bien trouvé avec aussi les paroles, qui rappelle un peu la grisaille actuelle justement avec cette idéologie qui est passée de l'idéologie californienne à l'idéologie texane. Donc c'est un peu un petit parallèle avec cette musique et mon sujet, donc je trouvais ça intéressant de la passer.
Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire d'idéologie texane, je crois qu'il y a le dernier livre de Fred Turner chez CF Édition qui détaille un petit peu tout ça. On se retrouve du coup dans 2-3 minutes pour la fin de l'émission, à tout à l'heure. De retour avec vous, Ziad, Angèle et Robin, pour terminer cette émission. Et du coup, pour terminer, sur notamment la question de la non-neutralité de la technique, Stéphane demandait sur Mattermost, notamment par rapport aux ingénieurs, parce que une fois qu'on a dit, bon voilà, la technique n'est pas neutre et en plus on ne peut pas prévoir, est-ce qu'on n'arrive pas facilement à deux postures qui peuvent être soit, bah, du coup je suis impuissant et je fais rien, puisque de toute façon bah, la technique elle porte en elle ses tendances, et puis, ou alors je ne peux rien prévoir puisqu'elle est autonome, enfin c'est tout, ces mêmes arguments, et du coup on verra bien, donc je m'en fous, ce n'est pas ma responsabilité. Est-ce qu'en tant qu'ingénieur, il y a quand même des trucs qu'on peut faire où on est obligé d'adopter une posture un peu... bah, ce n'est pas notre problème quoi en fait.
Pour moi, c'est compliqué d'adopter une posture déterministe en se disant bah, « de toute façon, ce n'est pas de mon fait, donc je ne m'en préoccupe pas ». On a toujours un certain contrôle, même s'il est limité, qu'il n'est pas total sur la technique qu'on produit. Donc c'est important, dans cette limite-là, déjà de réfléchir au maximum, enfin de pousser la réflexion au maximum sur qu'est-ce que ma technique va apporter de bon ou de mauvais au monde d'aujourd'hui et même au monde de demain, tout simplement. On ne peut évidemment pas tout contrôler, mais c'est important d'avoir conscience de ce que ça peut apporter, et du coup quand même de réfléchir à ces sujets-là, et d'essayer de faire de notre mieux, à défaut de pouvoir être parfait.
Et pour rajouter un point, je pense qu'il est aussi important, on ne peut peut-être pas tout prévoir, mais au fur et à mesure que nos techniques se développent, très rapidement être attentif, essayer de placer des limites, avec que ce soit des lois ou des règles, mais je pense que c'est un point assez important d'être assez réactif à ce niveau-là.
Effectivement, en tant qu'ingénieur, on n'est pas les seuls non plus à pouvoir agir là-dessus.
Oui, aussi par rapport à ce sujet, en tant qu'ingénieur, on a l'impression aussi d'avoir un peu cet esprit à savoir s'adapter à toute situation. Donc c'est un peu, ça fait un peu partie du métier justement de prévoir l'imprévisible, ou du moins de s'adapter le mieux possible. Donc concernant ce truc-là, bah, je pense justement qu'un ingénieur doit être capable de s'adapter à toutes sortes de situations, et c'est ça qui fait la différence entre un bon ingénieur et un très bon ingénieur.
Et on peut le voir de différentes manières, ce truc de s'adapter, parce que si c'est une rhétorique qui a pu être employée par l'industrie sécuritaire il faut absolument tout capturer comme données pour prévoir, on peut aussi le voir d'une autre manière qui est, bah, en fait, le monde en effet et les observations qu'on fait sur le monde et la direction qu'on aurait peut-être envie qu'ils prennent évolue, et donc du coup les ingénieurs aussi. Mais du coup, pour ces questions qui sont très très complexes, on a la chance d'avoir une UV à l'UTC, s'il y a quand même des étudiants, des étudiantes qui nous écoutent, mais dont les contenus sont aussi sur librecours.net, qui s'appelle IS03, et qui traite vraiment dans le concret de comment est-ce qu'un ingénieur peut adopter une démarche de conception qui soit technocritique, donc informée de ses réalités au niveau de la philosophie des techniques, et puis de l'état du monde, notamment du point de vue écologique, des ressources, mais du coup qui ne nous laisse pas un peu les bras ballants en se demandant ce qu'on peut faire, parce qu'en réalité il y a énormément de leviers qu'on peut mobiliser. Voilà, et du coup, désolé Stéphane, je ne prends pas ta question, car nous sommes pile à l'heure, et on va essayer de continuer comme ça. On se retrouve du coup dans quelques minutes pour la deuxième émission de l'après-midi. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, et à tout à l'heure.